VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Nouakchott, 18h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Au Mali, la ratification par le Parlement de la loi sur la patrie portant sur le respect de la Convention de New York sur les apatrides de 1954 fait couler beaucoup d'encre. Plusieurs médias laissent entendre que la loi a été adoptée pour permettre l'octroi de la nationalité malienne à certains chefs rebelles du nord du pays. Modibo Dembélé a contacté Maître Zoumana Ndjidoumbia, président de la commission des lois de l'Assemblée nationale malienne, pour en avoir le cœur net.
La définition de la patrie, c'est quelqu'un qui n'a aucun lien juridique avec un État. C'est une convention qui date d'après la Seconde Guerre mondiale. Le Mali n'avait pas encore ratifié ça. Donc, pour essayer en tout cas de réduire le taux d'apatridie, l'Assemblée nationale du Mali a ratifié la convention pour permettre à l'État du Mali d'adhérer en tout cas à la convention sur l'apatridie.
Pourtant, certaines personnes prêtent au gouvernement malien que le vote de cette loi serait surtout pour essayer de couvrir certains membres de la rébellion. Est-ce vrai?
L'apatridie n'a rien à voir avec la guerre qui se passe, la rébellion qui se passe au nord du pays, parce que l'apatridie signifie ceux-là qui n'ont aucune nationalité, en tout cas qui ont des difficultés à prouver leur nationalité par rapport à un État bien déterminé. Alors que la guerre ou la rébellion qui se passe au nord, ceux qui le font ont très bien une nationalité, donc à ne pas confondre.
Est-ce qu'ils vont bénéficier de cette loi, surtout les ténors de la rébellion Touareg actuelle?
La patrie n'a pas un lien avec la rébellion. Ceux qui se battent au nord ont bel et bien une nationalité, donc ne sont pas concernés.
Maître Zoumana Ndjidoumbia, député à l'Assemblée nationale du Mali. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari déclare que son pays a techniquement gagné la guerre contre Boko Haram malgré la menace persistante d'attentats suicides à quelques jours du délai qu'il s'était lui-même fixé pour vaincre le groupe djihadiste. Dans une interview publiée aujourd'hui par la BBC, le leader nigérien a souligné que les islamistes ne peuvent plus organiser des attaques conventionnelles dans le nord où ils ont leur bastion. Boko Haram en est réduit à utiliser des engins explosifs artisanaux, ajoute le président Buhari, en notant que la population est maintenant en train de rentrer chez elle. Mais selon l'Index mondial du terrorisme, un rapport publié par l'Institut pour l'économie et la paix basé à New York, le groupe djihadiste nigérien est maintenant devenu l'organisation terroriste la plus meurtrière dans le monde, avec des attaques non seulement au Nigeria, mais aussi dans les pays voisins comme le Cameroun, le Tchad et le Niger. Nigeria toujours, nouveau chef d'accusation contre le leader indépendantiste Biafré Nnamdi Kanu, dont une cour avait ordonné la libération la semaine dernière. Les précisions de Michel Joseph.
Parmi les nouvelles charges retenues contre le séparatiste Biafré, celle d'appartenance à une organisation illégale. Détenu depuis le mois d'octobre par les services de sécurité nigérians, Nnamdi Kanu est l'un des fondateurs de l'organisation Peuple indigène du Biafra. Ce groupe interdit par les autorités nigérianes réclame l'indépendance du Biafra, région du sud-est du pays. Kanu dirige par ailleurs Radio Biafra, une station pirate véhiculant les idées des séparatistes biafrais. Lors de sa comparution mercredi, Nnamdi Kanu a refusé de répondre aux accusations, se disant persuadé qu'il n'aura pas un procès équitable devant la justice nigériane. Il avait bénéficié d'un non-lieu le 16 décembre, après avoir été relaxé des chefs d'accusation de conspiration et appartenance à une organisation illégale. La Haute Cour fédérale d'Abuja avait alors ordonné sa libération, mais il avait été maintenu en détention.
Au Niger voisin, à moins de 2 mois de l'élection présidentielle, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a annoncé qu'elle allait soumettre au contrôle de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, le fichier électoral. Une décision saluée par l'opposition à l'approche de la présidentielle de février. On écoute Maître Kadri Oumarou Sanda, vice-président de la CENI.
Ce n'est pas parce que nous n'avons pas confiance, c'est pour créer les conditions de sérénité autour de la question électorale, parce que vous savez, s'il y a contestation au départ, il y aura contestation à la fin. C'est pour couper court à toutes ces contestations que la CENI, en toute indépendance, a pris la décision de confier le contrôle de ce fichier à l'OIF. Et je pense que tout le monde sera d'accord que l'OIF est l'organisme qui est à même de faire ce contrôle de manière à ce que le fichier soit accepté de tous.
Maître Kadri Oumarou Sanda, vice-président de la CENI au Niger, au micro de notre correspondant à Niamey, Abdoul Razak Idrissa.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En RCA, les législatives et la présidentielle auront lieu le 30 décembre et non pas dimanche 27 comme initialement prévu. L'Autorité nationale des élections, l'ANE, avait d'ailleurs admis mercredi qu'elle était à court de temps. Le reportage de notre envoyé spécial à Bangui, Catalina Hoge, présenté par Lionel Gaïma.
1 700 000 électeurs se sont inscrits pour voter. Les bulletins de vote qui sont arrivés cette semaine doivent être distribués à travers le pays. Une tâche monumentale en République centrafricaine où les déplacements restent difficiles. Mourouba Sakanga est un agent de service de la logistique de l'ANE.
C'est beaucoup plus le temps qui nous manque parce que bon, on a été obligé de comprimer les dates. Donc le temps nous manque pour réaliser les activités de manière méthodique.
Autre souci, la situation sécuritaire qui demeure préoccupante. Les groupes armés ayant renversé le président François Bozizé en mars 2013 sont toujours présents à Bangui, la capitale, en particulier dans le quartier majoritairement musulman du PK5. Gilles Silla est le chef de service de sécurité de l'Agence nationale des élections.
Du côté du gouvernement, nous sommes limités. Alors l'autre sollicitude, c'est que la MINUSCA ou la communauté internationale mette des moyens de mobilité à la disposition des forces de sécurité intérieure.
Voilà, c'était le reportage de Katharina Hoge, présenté par Lionel Gaïma. La nouvelle rébellion proclamée au Burundi n'a aucun avenir. Telle est la réaction de la présidence burundaise ce jeudi à l'annonce de la création du mouvement rebelle Forebu, la force républicaine du Burundi. Un ancien officier supérieur de l'armée, le lieutenant-colonel Edouard Nshimirimana, a révélé hier que la Forebu rassemble les principaux groupes armés anti-gouvernementaux opérant dans le pays. Un embryon de rébellion harcelait depuis plusieurs mois les forces de sécurité à Bujumbura et en province, mais sa création n'avait jamais été officialisée et elle n'avait pas de nom.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'actualité hors d'Afrique, le groupe État islamique a perdu du terrain en Syrie et en Irak, selon un rapport du Pentagone. Mais malgré ce recul, dû en partie aux frappes aériennes de la coalition internationale conduite par les États-Unis, le groupe djihadiste a aussi conquis de nouveaux terrains, notamment en Libye. Pour Mostafa Tossa, journaliste basé en France, l'expansion de l'État islamique reste une menace majeure qui devrait être prise plus au sérieux par la communauté internationale.
On s'attend à ce que la communauté internationale soit réellement sérieuse dans la lutte contre ce phénomène-là. Alors maintenant, toute la question est de savoir est-ce que le fait de se contenter uniquement de bombarder de manière aérienne les bastions de l'État islamique en Syrie et en Irak, est-ce que c'est la seule solution ? Ou bien il faut envisager d'autres pistes, y compris celle de déployer des forces terrestres pour aller combattre sur le terrain militairement la direction de Daesh. Alors on parle aussi de monter une coalition locale, sous-traiter cette guerre à des forces arabes, kurdes et pourquoi pas turques demain. Donc toutes les hypothèses sont là, sauf qu'il y a une seule certitude, c'est que l'action du bombardement aérien n'a pas suffi à éradiquer Daesh. Bien au contraire, l'État islamique en a profité pour s'épanouir et pour augmenter son territoire.
Mostafa Tossa, journaliste basé en France. Le conflit au Yémen maintenant, le Conseil de sécurité de l'ONU s'inquiète des violations du cessez-le-feu dans ce pays, alors que des pourparlers pour y ramener la paix sont en cours. Les précisions d'Eric Manirakiza.
Les 15 membres du Conseil ont, dans une déclaration de ce mercredi, exprimé leur profonde préoccupation au sujet du nombre de violations de la trêve durant les pourparlers de paix. La cessation des hostilités et le respect des résolutions onusiennes devraient conduire à un cessez-le-feu complet et permanent, ont-ils souligné. Le Conseil de sécurité s'est par ailleurs inquiété de la grave situation humanitaire qui continue de se détériorer au Yémen. Cette déclaration elle-même est intervenue à l'issue de sa session de mardi sur le Yémen, la première réunion publique sur le conflit yéménite depuis que celui-ci a éclaté il y a 9 mois. Une première série de pourparlers entre le gouvernement yéménite et les rebelles houthis a été ajournée dimanche et selon l'émissaire onusien Ismaël Ould Cheikh Ahmed, les deux camps se rencontreront de nouveau le 14 janvier.
Toujours concernant la situation au Yémen, le chef des rebelles houthis, les rebelles chiites, ont appelé ses partisans à ne pas parier sur l'ONU qui œuvre pour un règlement politique du conflit dans le pays. Les exhortent à résister aux forces pro-gouvernementales.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.